et reportage, principe actif.
Bulles et reportage.
Nous recevons aujourd'hui deux exploitants agricoles. Corinne Duédal, de la ferme des Pâtures à Orvault, et Jean-Bernard Lozier, exploitant agricole à Coudre. Bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter ? Corinne, vous avez la parole.
Bonjour. Donc, moi, je suis exploitante agricole à Orvault. On a une ferme familiale d'élevage bovin allaitant, après avoir un élevage bovin laitier. Et là, on est en conversion bio depuis le mois de juin 2019. Et au mois de mars, mon fils nous rejoint pour faire un élevage de brebis laitières aussi. Voilà, on a une petite ferme de 75 hectares, ce qui n'est pas très très grand dans le département par rapport à la moyenne. Et on est sur et une ferme pédagogique aussi. Voilà, depuis les années 2000.
Jean-Bernard.
Donc bonjour, Jean-Bernard Lozier, je suis agriculteur sur le plateau d'Évreux-Saint-André à Coudre. Je me suis installé en 1990 sur la moitié de l'exploitation familiale. Mon frère s'étant installé sur l'autre moitié. Donc quand je me suis installé, je cultivais 40 hectares et j'avais un élevage de volailles, poulets traditionnels en vente directe que je commercialisais en circuit court. Sur les cultures, je fais principalement des céréales. Quand je me suis installé, je faisais à peu près comme tout le monde, du colza, du blé et de l'orge. Et puis, je me suis orienté vers ce qu'on appelle... je voulais réduire au maximum les pesticides, les engrais de synthèse. Donc, je me suis orienté vers ce qu'on appelle l'agriculture intégrée, c'est-à-dire que c'est une agriculture qui cherche à être le moins dépendante possible de tous les intrants extérieurs et notamment... les intrants pesticides et engrais de synthèse. Et donc, j'ai commencé ça en 2000, et donc ça fait 20 ans que je suis dans cette démarche-là. Donc, ce qui a nécessité une diversification des cultures, et etc. Et depuis 5 ans, en fait, j'ai arrêté l'élevage que j'ai transmis à ma nièce qui s'est installée sur cet élevage-là. Et moi, je me suis focalisé plus sur l'agronomie et puis essayer d'avancer dans cette démarche de réduction des produits chimiques de synthèse.
Alors moi, je voulais rajouter, en attendant Jean-Bernard, que nous aussi, on a de la vente directe. En fait, on vend des colis de bœuf et de veau en direct sur la ferme. Et qu'avant la conversion bio, en fait, on était en agriculture intégrée aussi. Et avec cette agriculture intégrée, on avait fait un bilan. En fait, on arrivait à moins 80% d'apport de produits phytosanitaires sur la ferme. Alors qu'à l'époque, on parlait de diminuer à moins 50%, comme quoi c'était quand même possible avec un élevage.
Corinne et Jean-Bernard. Bon, vous nous avez expliqué votre parcours, mais comment, en fait, êtes-vous arrivé à devenir agriculteur ? Jean-Bernard ?
Alors, moi, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et bon, même si j'ai eu un parcours professionnel, je me suis installé, en fait, j'avais 30 ans quand je me suis installé agriculteur. Donc, je suis allé voir un peu ailleurs ce qui se passait dans d'autres milieux. J'ai travaillé au théâtre d'Évreux, j'étais machiniste au théâtre d'Évreux. J'ai été pion, j'ai été pion dans un lycée. J'ai fait pas mal aussi de stages dans des fermes différentes, etc. Mais en fait... aussi loin que je me souvienne, j'adorais être dans les champs, j'adorais faire du tracteur, j'adorais travailler la terre, j'adorais sentir la terre, et j'ai toujours adoré ça, quoi. Donc pour la blague, je dirais que j'avais dit à mon père un jour, forcément quand j'étais adolescent, c'était un peu tendu avec les parents, et j'avais dit jamais je reprendrai ta ferme. En fait, dès que j'ai pu, dès qu'il a arrêté, j'ai sauté sur l'occasion pour reprendre la ferme, quoi.
Vous avez écouté la voix du cœur, quoi.
Ouais. En fait, j'adore ça, quoi. Vraiment, j'adore ça.
Ça se voit. Et vous, Corinne ?
Alors moi, j'étais pas du tout dans le milieu agricole. Moi, je travaillais dans le social et j'ai rencontré un agriculteur.
Ah bah voilà.
Et donc, moi, j'ai toujours aimé la campagne aussi. Donc, ça me correspond tout à fait bien. Et puis, mon mari a toujours été quelqu'un aussi de très passionné par son métier, qui est très pointu sur le plan technique aussi et qui a toujours été en recherche de choses innovantes. C'est pour ça qu'il a fait de l'agriculture intégrée pendant des années. Et puis, voilà. Donc, et puis, la ferme... Moi, je me suis installée sur l'atelier ferme pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où, où j'ai pu m'installer comme ça, je me suis focalisée sur l'accueil des groupes, alors que ça soit... aujourd'hui, c'est très diversifié, que ce soit des groupes scolaires, des groupes de centres de loisirs, des groupes d'enfants, des familles, des associations, des personnes handicapées, des personnes âgées. Enfin, on touche tous les publics et on adapte toujours, en fait, nos visites ou nos journées pédagogiques à l'âge du public et puis à l'objectif de celui qui veut venir partager avec nous. Le mot, c'est le maître mot, c'est le partage et l'échange et puis aussi faire connaître notre métier. Voilà.
Et bien maintenant, nous allons écouter un micro-trottoir.
Qu'est-ce que vous pensez des agriculteurs ?
Ah ben, je pense que les agriculteurs, ils ont bien du mérite. Et moi, je les soutiens du fond de mon cœur.
Faut se lever de bonne heure, mais sinon c'est un travail satisfaisant.
Bon, il y en a qui se plaignent toujours. Mais ça, je pense que c'est quand il fait pas beau, ça va pas. Quand il fait beau, ça va pas non plus. Mais bon, ils sont pas tous comme ça quand même.
Non,
non. Non, en principe, c'est des gens sympathiques, moi je trouve.
Je connaissais Monsieur Bliard à Gaillon.
Il était agriculteur ?
Oui, il était agriculteur.
Et vous le connaissiez ?
Oui, j'ai travaillé pour lui.
Ah, vous avez travaillé donc dans une ferme alors ?
J'ai travaillé dans une ferme, oui.
D'accord. Et pour vous, quel est le métier d'agriculteur ? Comment vous le voyez ?
Bah, un peu difficile quand même, un peu difficile. Pour eux, ce n'est pas toujours très facile. Mais bien quand même, dans un sens que le monsieur, il avait quand même du temps pour ses enfants, il prenait du temps pour ses enfants.
D'accord.
Moi, je trouvais bien cet homme-là.
D'accord. Et il était jeune, il était âgé ?
Oui, une quarantaine d'années, 40, 45 ans.
D'accord. Donc, c'était pas un agriculteur, un ancien, quoi,
non,
en fait ?
Non, c'était pas un ancien agriculteur, non.
D'accord. Alors, justement, puisque vous étiez dans ce... Vous avez été élevé, si je comprends bien, dans ce monde-là, dans le monde rural, d'accord ? Quel est votre avis sur les agriculteurs ?
Bah, des gens courageux. Hein. Pendant mes vacances, je travaillais dans les fermes, hein, de toute façon, et ce sont des gens courageux, parce que c'est un métier très dur, hein, de toute façon. Très, très dur. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de vacances à travailler. Et... Non, c'est vraiment un monde très dur. Et les gens qui travaillent en agriculture ne sont pas rémunérés au niveau de leur travail. Quoi. Ouais. Je parle pour les petits agriculteurs, hein, éleveurs et les petits céréaliers, les grosses entreprises qui font des centaines d'hectares. Bon, c'est différent, mais pour les petits, c'est très très dur. Quoi.
Ouais. Et c'est en partie pour ça que vous n'avez pas repris, peut-être ?
Ah bah, oui, bien sûr, oui. Oui. Non, je me suis orienté dans un tout autre domaine, dans le ministère de la Défense, donc, oui. Dans l'armée. C'est trop, trop dur, et quand je vois les conditions actuelles pour les agriculteurs, les difficultés pour les petits agriculteurs, c'est trop dur pour eux, de toute façon. On voit le nombre de suicides, c'est trop, trop dur. Non, non.
Certains ont beaucoup de mal. Je ne voudrais pas être à leur place.
Beaucoup de mal parce que c'est dur ou...
Non, c'est pas le problème, c'est dur. C'est-à-dire que les céréaliers, ils gagnent de l'argent, mais ceux qui ont des vaches et tout ça, eux, ils gagnent pas d'argent.
J'ai beaucoup de respect pour la profession, tant pour ceux qui ont choisi le bio que les autres. Je me doute que ce sont des choix pas faciles à faire. Et beaucoup de compassion aussi. Je pense que le modèle est à revoir. Parce que voilà, c'est rude et ça, c'est des gens qui donnent toute leur vie à ça et qui ont au final peu de retour sur investissement, si je ne sais pas si c'est la bonne expression. Mais...
Alors on a entendu beaucoup d'opinions sur les agriculteurs ou les exploitants agricoles. Et vous, quel regard posez-vous sur votre profession, sur ses pratiques et sur l'évolution que prend l'agriculture maintenant ? Lequel des deux veut répondre ? Alors Jean-Bernard.
Alors,
Vaste question, là. Il y en a trois. Alors déjà, j'ai trouvé ça vachement intéressant, moi, parce qu'en ce moment, on est en plein dans ce qu'on appelle l'agribashing. Et alors, de ce que j'ai entendu là, j'ai l'impression que les gens d'Evreux, ils adorent leurs agriculteurs, ils sont plein de compassion pour nous, ils nous plaignent. Je vous avouerai que moi, l'agribashing, c'est quelque chose contre quoi je me positionne contre cette histoire d'agribashing, parce que pour moi, c'est quelque chose de monté de toutes pièces, j'ai envie de dire politiquement. Et on voit bien quand même que, vraiment, d'après ces témoignages-là, et il y a eu des sondages là-dessus, les citoyens aiment leurs agriculteurs. Enfin, après, évidemment, il y a toujours quelques extrémistes qui ont notamment l'association L214, etc., bon, qui font des actions contre les agriculteurs. Mais globalement, on voit bien qu'on nous aime bien, quoi. Alors après, est-ce que c'est la problématique de l'agriculteur de se sentir détesté par les citoyens, ou pas aimé en tout cas, ou est-ce que c'est une stratégie pour se faire plaindre, parce que les agriculteurs, ils aiment bien se faire plaindre aussi. Je trouve ça intéressant quand même. Ça me conforte dans mon idée que cette histoire de l'agribashing, c'est quand même quelque chose qui est monté de toutes pièces, et j'ai envie de dire politiquement monté de toutes pièces.
Alors, moi, ce que j'en ai retiré là-dessus, c'est que effectivement, les gens, effectivement, nous aiment bien, mais en même temps, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de projection de l'image que s'en font. C'est-à-dire que il n'y a pas une agriculture, il y a plein d'agricultures différentes, et selon les situations. Bon, là, il y a une dame qui en parlait avec les céréaliers et puis les éleveurs, mais. C'est vrai que les situations sont très différentes selon la façon dont on pratique aussi. Et puis, il y a toute cette histoire avec les phytosanitaires. Je pense qu'il y a des agriculteurs qui ne se sentent pas très à l'aise par rapport à ça. Et c'est d'où l'agribashing, justement. Mais je pense qu'il y a quand même une contestation de certaines pratiques. Et ça, c'est vrai que pour certains, c'est pas facile à vivre, parce que on a été quand même, les agriculteurs ont été poussés à fonctionner de cette façon-là pendant des années, pour produire plus, pour nourrir la France, comme on dit, et maintenant nourrir le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on leur dit, non, c'est pas bien de faire ça. Donc, je pense que ça dépend où on se place. Hein. Mais oui. Les choses sont jamais aussi simples que ça, en tout cas.
Dans le « c'est pas bien de faire ça », est-ce qu'il y a une opposition importante, justement, de toute cette frange de population qui est contre le fait d'élever des animaux pour les manger, pour les tuer, pour la maltraitance animale ?
Alors, pour moi, ces gens-là sont pas si nombreux que ça. Par contre, ils ont des gros moyens. Ils ont des subventions qui viennent d'autres pays aussi. Hein. C'est pas un... Et pour moi, c'est un problème de citadin plus, excusez-moi du terme. Mais autrefois, quand les gens avaient moins d'argent, on se posait pas ce genre de questions. Alors, au niveau du bien-être animal, ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Au niveau de la philosophie, justement, de L214, je trouve que ça, c'est trop, quoi. Ça va trop loin, parce que le jour où il y aura plus d'animaux, il y aura plus d'agriculture non plus, de toute façon. Parce que pour faire du blé, il faut quand même avoir quelques engrais. Donc si on veut pas d'engrais chimiques, et si on veut pas d'engrais animal, on est mal parti, quoi. C'est une façon de voir les choses juste d'un côté de la lorgnette, mais d'une petite fenêtre, et surtout pas de façon globale. Et le problème aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on est toujours dans ces situations-là. On met le doigt sur une chose et puis on voit pas les situations globales. Ça fait que à la fin, c'est pas juste.
À présent, on vous propose d'écouter un micro-trottoir.
Quel rôle a l'agriculture dans nos vies?
Bah, elle est importante parce que c'est eux qui nous nourrissent, entre guillemets. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a des légumes, des fruits. Enfin, s'ils n'étaient pas là, il n'y en aurait plus.
On fait beaucoup au drive pour tout ce qui est, on va dire, non périssable. Et pour le reste, j'essaye quand je peux, mais avec un tout petit, ce n'est pas forcément évident, d'aller au marché. Et... voilà, je vais beaucoup aussi à la Biocoop.
Biocoop. C'est devenu une petite habitude maintenant.
Il y a beaucoup de produits qui me plaisent. Et puis bon, voilà, j'essaye tant que faire se peut de prendre du bio.
Entretien des champs, déjà. Et quand on a des bêtes, s'occuper des bêtes, tout ça.
Quel rôle a l'agriculture dans nos vies?
Pour moi, c'est un rôle très, très important parce que c'est un métier qui est malheureusement en voie de disparition et c'est ce qui permet de produire des aliments purs, de qualité, normalement. Et il ne faudrait pas que ça disparaisse.
Ah, d'avoir des produits comme il faut.
Ah, c'est-à-dire des produits comme il faut.
Non traités, non... voilà. Bio, moi comme je... bio, façon de parler.
Oui. Parce que vous pensez que tout est bio?
Non. Même dans notre jardin, c'est pas bio, alors. C'est-à-dire que nous, on traite pas, mais les autres à côté, on sait pas ce qu'ils font.
Voilà. Pour vous, quel est le rôle de l'agriculture?
Il est très important, parce que sinon, si c'est mal fait, on est tous mal. On est tous mal, pour moi.
Ça veut dire quoi, tous mal?
Disons que s'ils ne font pas attention, s'ils ne font pas ce qu'il faut pour nourrir les bêtes ou pour nourrir pour l'agriculteur même, ne serait-ce que les produits, la farine et tout le reste, si c'est mal fait, on est tous malades, quoi.
Donc c'est important pour la santé,
oui,
c'est ça?
Hyper important pour la santé.
Pour vous, quel est le rôle de l'agriculture?
Ah ben à l'origine, l'agriculture, c'est pour nourrir les hommes. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Les cultivateurs sont faits pour nourrir les êtres humains. Hein. Voilà.
Ah, essayer de nous nourrir du mieux possible. Être le meilleur produit possible.
Alors, suite à ces réponses, Corinne et Jean-Bernard, comment voyez-vous le rôle des agriculteurs au sein de notre société? Quelles fonctions occupent-ils?
Je crois que les gens l'ont dit, on est là pour nourrir les autres, d'une. Et puis, ils mettent en avant aussi les produits qui ne font pas de mal, comme ils disent. Hein. En parlant de bio, faut savoir quand même que l'agriculture biologique, ça représente une toute petite partie de la production agricole. Mais par contre, moi, ce que je vis avec ça, avec ce genre d'interview, c'est... le fait que les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus exigeants par rapport à nos pratiques et que ça peut faire changer les choses.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est important. Et on se développe aujourd'hui de plus en plus la vente directe à la ferme. Jean-Bernard a passé la main à sa nièce, hein, c'est ça. Et de plus en plus, il y a des petits magasins à la ferme, etc. Et ça permet aussi aux gens de voir un peu ce qui se passe dans les fermes. Aujourd'hui, on représente moins d'1% de la population. Il y a plus d'un siècle, on était à 80%, sinon plus. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un grand fossé entre les gens et nous. Et on voit aussi par rapport aux histoires du coq Maurice, les gens qui s'installent dans des villages et qui veulent plus entendre des coqs, qui veulent plus sentir des odeurs désagréables, etc. Ça traduit justement cette rupture entre le monde rural et puis le monde néo-citadin, si j'ose dire.
Je ne sais pas si c'est une rupture, mais je crois que c'est surtout une méconnaissance, en fait. J'ai l'impression qu'on n'échange pas assez, on parle pas assez. Et moi, je vois bien, quand je discute avec des gens, ils ont les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes et ils ont envie d'apprendre, en fait. Et je pense que là, on a un vrai boulot, nous, à faire d'explication de notre métier.
Je suis d'accord avec vous.
Et voilà, à quoi on sert. Alors, à quoi on sert? On sert évidemment à nourrir, mais on sert aussi, à mon avis, à entretenir aussi le territoire. à entretenir les campagnes. Mmh. Et puis dans cette période de problème de changement climatique, j'ai passé 2 jours là à travailler sur le changement climatique. On s'aperçoit que pour essayer de réduire ce carbone et puis réduire ce réchauffement climatique, et bien finalement, le seul levier vraiment fiable, c'est le levier de la nature et donc de l'agriculture. C'est-à-dire que ils ont essayé apparemment dans les mers de balancer du fer, du soufre, je sais pas quoi, pour capter le carbone. Bon, c'est complètement délirant et en plus c'est pas efficace du tout. Ils ont essayé de capter avec des espèces de grosses centrales, d'essayer de centraliser le carbone et de l'aspirer, quoi, pour le mettre dans le sous-sol. Bon, ça crée, entre autres, ça crée des mini-tremblements de terre. Et puis, bon, c'est pareil, c'est illusoire. Alors que nous, agriculteurs, en faisant pousser des plantes, c'est nous qui allons capter du carbone, relâcher de l'oxygène. Enfin, on a un vrai rôle super important à jouer ici, qui va au-delà du fait de nourrir les gens, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Mais j'en reviens un peu. Alors moi, c'est mon côté, je suis porte-parole de la Confédération paysanne, alors c'est mon côté un peu politique, mais je pense qu'il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on comprenne pourquoi on veut changer de modèle, à quoi on va servir en agriculture. Et là, c'est sûr que le syndicat majoritaire, il traîne un peu des pieds pour avancer dans cette démarche-là. Mais il faut qu'on change de modèle d'agriculture. Mais il faut aussi qu'on change de modèle de société. Parce que les agriculteurs tout seuls, ils pourront pas tout changer, ils pourront pas tout faire. Il faut que tout le monde s'y mette, tout le monde mette la main à la pâte pour notamment ce problème de changement climatique, qui est quand même, franchement, c'est un problème...
Alors aujourd'hui, dans le département, puis en France et ailleurs, mais dans le département, il y a un groupe... qui s'occupe de l'agroforesterie, en fait. Et justement, c'est le fait de planter des arbres dans les champs, qu'on fasse de l'élevage ou des cultures, pour justement rééquilibrer tout ça. Et puis pour purifier l'eau aussi des nappes phréatiques, entre autres.
Ah, oui.
Alors ça, c'est une démarche volontaire. Hein. C'est-à-dire qu'on le fait si on a envie, mais ça se développe de plus en plus.
Alors, en fait, oui, parce que bon, ça, c'est finalement un levier, hein, l'agroforesterie, les haies, mais ça fait partie d'un tout. Et l'agriculture intégrée, dont je parlais au début, cette démarche pour essayer de refaire de l'agronomie, elle utilise tous les leviers qui vont se présenter, tous les leviers agronomiques et écologiques qui vont se présenter pour continuer à produire quand même, dans des proportions raisonnables, et éviter d'avoir le moins d'effets négatifs et même avoir des effets positifs sur le climat, sur l'environnement, etc.
On en revient aussi à l'histoire de consommer local et produire local.
Oui.
Parce que si on produit du blé pour l'envoyer à l'autre bout du monde, est-ce que c'est vraiment bien utile ?
Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même un engouement pour aller justement acheter ces fruits à la ferme. Même chez les jeunes, hein, je vois bien, moi, de mon côté, souvent, les jeunes recherchent des bons produits pour leurs enfants.
Alors moi, je reviens.
Ils font maison.
Mais non, mais il y a surtout ce qu'il faut, à mon avis, et qu'on a perdu, c'est rétablir une relation de confiance.
Voilà, il faut une relation de confiance, tout à fait.
La relation de confiance, ça vient sur ce que disait Jean-Bernard, à savoir parler de nos pratiques, c'est-à-dire comment on fait pour élever nos bêtes. Moi, par rapport aux vaches, je dis toujours, maintenant on est en conversion bio, donc hop, ça y est, on a la bonne étiquette, mais... nourrir des vaches à l'herbe, c'est un système aussi qui fait que, au lieu de leur apporter à manger avec un tracteur, on permet aussi d'avoir un système cohérent et qui soit plus respectueux de l'environnement pour plein de choses. Mais parler aux gens de ce qu'on fait, ça leur permet d'avoir cette confiance.
C'est déjà l'aube sur ta cambrousse, t'enfiles tes bottes à salopette. tête. Le petit-déj est pris sur le pouce. C'est ta routine, 7 jours sur 7. On peut pas dire que t'es à la bourre. Toi tu connais pas les horaires. Et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Y'a longtemps que tu comptes plus les heures. À quoi tu penses sur ton tracteur? Y'a longtemps que tu comptes plus les heures sur ton tracteur. Tu revois ton père avec sa cotte sur le pont à 6 heures du mat. Et sur la table une petite note. Sois sage fiston et fais tes maths. N'embête pas trop ta mamie. Tu seras gentil de l'aider un peu. Je serai là pour midi et demi. Pile poil pour le pot au feu. Dont tu te rappelles encore l'odeur. Quand t'as les crocs sur ton tracteur. Dont tu te rappelles encore l'odeur. Sur ton tracteur. Si t'as baigné dans une culture, c'est bien dans celle des haricots. Que tu équeutais à la dure sur une pile de vieux journaux. Mamie, elle tricotait un pull en écoutant l'ancienne France Bleue. Tu le mets toujours d'ailleurs ce pull. Disons que ça te la ramène un peu. Tout comme l'émission de 17h que tu écoutes sur ton tracteur. Tout comme l'émission de 17h sur ton tracteur. J'ai toujours aimé la moisson. Et puis j'étais pas bien matheux. Je me suis construit une belle maison à 200 mètres de chez mes vieux. Je suis à la tête de l'entreprise aujourd'hui et j'en suis fier. À la télé ils parlent de crise, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la terre? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? C'est déjà la nuit sur ma cambrousse. Je retire mes bottes, ma salopette. Mon fils suce encore son pouce, mais il s'occupe déjà des bêtes. Il aime pas bien les haricots et encore moins les équeutés. Il y a de plus en plus de vieux journaux, toujours un pull à tricoter. Et moi je me dis tout en bâillant qu'il faudrait que je dorme quelques heures. Et que peut-être dans 15 ans, ce sera mon fils sur mon tracteur.
Eh bien, je crois que Michel a quelque chose à nous dire sur ce qu'il pense aussi de l'agriculture.
Oui, ben voilà. La PAC en quelques chiffres. L'apport pour la France de la PAC, la politique agricole commune, versé par l'Europe est de 10 milliards d'euros par an sur la période 2014-2020, dont 1,4 milliard pour le deuxième pilier. La France reste le principal bénéficiaire du budget européen dédié. L'enveloppe totale se situe autour des 50 milliards, dont 9 milliards pour l'Italie et à peu près la même somme pour l'Allemagne. On parle de pilier à la PAC. Le premier pilier, c'est un soutien du marché des prix et des revenus. Le deuxième pilier concerne le développement rural et tous les projets qui gravitent autour. Voilà donc, et l'avenir de la PAC.
Alors justement, la PAC. Normalement, elle doit contribuer à la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources naturelles. Et est-ce que vous pensez que les conditions, les ressources financières qui vont être attribuées vont suffire pour pouvoir modifier ce changement climatique et...
Alors...
Là, moi, je pense que oui. Enfin, ça suffit jamais. Hein. Assez, nous, les paysans. Tant qu'on nous en donne, on en prend. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire. Le problème, c'est comment on donne, à qui on donne et pourquoi on donne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on donne des aides principalement à l'hectare. C'est-à-dire qu'en gros, plus on a une grosse ferme, plus on a d'aides. Donc, plus on est riche, quoi. Et la petite part du second pilier dont on parlait tout à l'heure, c'est la part du développement durable, alors qui va aider à avoir des stratégies par rapport justement à l'environnement, etc. Mais on voit bien qu'elle est réduite à la portion congrue, cette part du deuxième pilier. Donc là, on est en pleine négociation de la future PAC 2021-2025. Et c'est là où nous, alors à la Confédération paysanne, on essaie de faire du lobbying pour changer cette PAC complètement, en sachant que l'argent de la PAC, c'est les citoyens européens. Donc moi, je pense que quand la PAC a été créée, on donnait des aides aux agriculteurs pour qu'ils produisent en quantité. Nos parents ont fait ça très, très bien. On leur donnait des aides, ils faisaient du volume. Et c'est les citoyens qui demandaient du volume parce qu'ils voulaient manger. Et si on sortait de la guerre, enfin bon. Aujourd'hui, le citoyen, ce qu'il demande, c'est continuer à manger. Mais ça, on a largement ce qu'il faut. Mais il veut aussi qu'on respecte l'environnement, qu'on ait une incidence sur le climat, etc. Eh bien, à nous de répondre à ça par les aides de la PAC. Mais actuellement, telle qu'elle est déclinée, la PAC, elle ne répond pas du tout à ça. Alors il faut... Il y a plein de leviers sur lesquels il faudrait travailler, et notamment le principal levier, de plus donner des aides déjà à l'hectare, mais à l'unité de travail, ce qui répartirait beaucoup mieux les aides, qui permettrait de garder des petites structures, des petites fermes. Parce qu'aujourd'hui, on voit des fermes avec 300, 400 hectares et une unité de travail dessus. Et les aides, comme elles sont à l'hectare, les aides, elles vont toutes à la même personne. Donc c'est comme ça qu'on a des aides qui vont principalement à la reine d'Angleterre, au prince de Monaco. C'est des trucs délirants. Et puis ensuite, il faudrait, alors d'une part, l'aide non plus à l'hectare, mais à l'unité de travail, et d'autre part, des aides liées aux services, ce qu'on appelle les services environnementaux. C'est-à-dire que donner des aides aux agriculteurs en fonction de leur niveau de travail, d'engagement sur l'environnement. Alors, c'est ce qui se fait, par exemple, en Suisse, où ils ont, je crois, ça doit être 4 niveaux d'aide. Un niveau de base, avec une petite aide de base et des règles pas trop exigeantes. Et puis ensuite, plus les agriculteurs sont vertueux, plus on leur donne d'aide. Pour arriver aux 4... Je crois que c'est 4 niveaux. Le quatrième niveau, c'est la bio. Et c'est là qu'on a le maximum d'aide. Et bien là, franchement, on irait vers quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus en attente de ce que veulent les citoyens, qui sont quand même nos financeurs. Hein,
oui, donc. On irait plus vers la qualité que vers la quantité.
Ben, la qualité, puis la qualité des produits, la qualité de l'environnement, de l'air, de la vie, des paysans dans les campagnes, donc du lien social, enfin... Après, c'est un vrai changement de modèle. Hein. Nous, alors c'est ce que nous, à la Confédération paysanne, on appelle le concept de l'agriculture paysanne. Mais c'est un vrai changement de modèle. Hein. C'est une révolution que je vous propose là. Hein. Elle n'est pas infaisable, hein, loin de là.
Et à savoir, en fait, qu'est-ce que veulent les citoyens réellement ? Et qu'est-ce que nous disent les politiques par rapport à ça ? Quelle société on veut, en fait ?
Alors justement, je vais vous poser une question à ce sujet-là. Quel est le rôle des politiques dans l'agriculture et comment cela l'influence-t-elle ? Puisque vous avez parlé de subventions, il y a le remembrement, les normes, les cahiers des charges. Et quelles en sont les conséquences ?
Jean-Bernard. Le rôle des politiques, il est énorme. Hein, et, ouais. Et notamment, alors là, pour le coup, nous, on est quand même très liés à l'Europe. Donc, toute la politique européenne... Mmh. Moi, je me suis aperçu, je ne suis pas allé souvent à Bruxelles, mais pour y être allé quelques fois, quand on arrive à Bruxelles, là, au Parlement, sur la partie agricole, là, tout autour, là, il y a tous les lobbies qui sont là. les Bayer, les alors plus Monsanto parce qu'il n'existe plus, mais oui. Tous ces mecs. Et puis eux, ils sont là, ils font du lobbying, et puis ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Moi, j'y suis allé, j'étais invité par un petit lobby, c'est Pesticide Action Network, donc c'est une association qui travaille pour l'environnement. Alors, j'ai plus les chiffres, mais ça doit être 100 ou 1000 fois moins d'argent que tous ces lobbies qui travaillent dans l'autre sens. Et donc, bah, les politiques, y a toujours ces lobbies qui viennent à la charge pour défendre leurs intérêts, et eux, ils sont voilà, ils font de la politique, hein, donc. mais oui, c'est là que ça se joue, quoi. Et c'est vraiment un choix politique. Alors est-ce qu'on va être prêt à le faire? Moi, je dis qu'on n'a jamais été aussi prêt de pouvoir changer, avec notamment quand même, hein, j'y reviens, mais le problème du changement climatique, il est hyper important. Et là, il faut réagir.
Quoi, ouais.
Déterminant. Il faut réagir très très vite, quoi, ouais. Parce que par exemple, il y a eu des simulations de fait. Si on imagine qu'on extensifie complètement l'élevage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élevage intensif, qu'on passe 45% de l'agriculture en bio, ce qui est énorme, ce qui est même quasiment impensable, on arriverait tout juste à arrêter la production de carbone et l'augmentation du changement climatique. On n'arriverait pas à faire décliner ça. Vous vous rendez compte ? En passant la moitié des terres en bio et en faisant que de l'élevage extensif. On aurait juste à arrêter ce cheminement vers l'augmentation des températures. Donc, il va falloir s'y coller quand même sérieusement, quoi. Enfin, c'est gravissime, là, ce qui se passe.
Oui, c'est vrai.
Et nous, l'agriculture, on a quelque chose, un grand rôle à jouer là-dedans. Et moi, je trouve que c'est... Plutôt que de dire c'est nous les responsables, les agriculteurs, on fait de l'agribashing, etc., plutôt de se dire, on y va, quoi.
On a un vrai grand
rôle à jouer, et puis on peut peut-être changer les choses.
Et tous ensemble, bien sûr.
Et tous ensemble.
Et communiquer.
Et oui. Mais attention, oui, pas que les agriculteurs, tous ensemble.
Voilà,
C'est-à-dire que la société, il faut aussi qu'elle change.
Voilà, exactement. Bien sûr.
Il faut qu'on passe à une autre société. Parce que quand on parlait beaucoup du paix des vaches par rapport au carbone et tout ça. Mais en fait, on avait calculé on avait fait un bilan sur la ferme quand on était en agriculture intégrée. Et en fait, notre bilan carbone, il était égal à l'aller-retour une fois Paris-New York.
Enfin, n'oublions pas quand même qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Hein. Parce que là, ce sont des grandes étendues, des élevages.
Ils sont beaucoup moins
immenses. Ouais. Et ça joue beaucoup, par contre.
Ouais. La France est quand même un des consommateurs de phytosanitaires les plus importants. Hein. Aux États-Unis, ils en utilisent beaucoup moins, mais ils sont tellement extensifs. Ils ont tellement de surface que ça change différent. Mm. Ça change les choses.
C'est clair que c'est un problème mondial, mais...
Mais voilà, il faut que tout le monde...
Il faut qu'il y en ait un qui s'y mette.
Il ne faut pas qu'on dise,
mais
c'est pas moi, c'est l'autre.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Mais il y a une prise de conscience, je pense que...
Oui, oui.
Mais je pense qu'il faut que les politiques ils aient aussi ce courage-là de vouloir changer certaines choses.
Bien sûr aussi.
Que y a quand même des bilans qui sont faits par rapport à tout ça. Et s'ils prennent aussi compte de ce genre de constat, c'est aussi à eux de pouvoir imposer certaines choses. Quand il y a des subventions en agriculture, selon ce qu'ils proposent, il y a eu des subventions sur le blé, sur le colza. Ben, les gens se sont tous mis à faire du blé, du colza. Quoi. Aujourd'hui, vous allez dans les campagnes, il y a blé, colza, orge. Autrefois, il y avait plein de plantes différentes. Il y avait une diversité beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai que les politiques ont un rôle, mais il faut aussi faire attention à l'impact que ça peut avoir pour moi.
Alors, justement, là, on parle du suivi des cultures, etc. Comment vous envisagez la transmission de vos savoirs, justement ? Comment vous faites pour donner la main à ceux qui viennent derrière ? Parce que là, apparemment, Jean-Bernard, son père était agriculteur. Corinne, c'est pareil. Vous, c'était le père de votre mère, voilà, qui était aussi agriculteur. Mmh. Votre fille va suivre. Vous, je ne sais pas. mais justement, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette transmission. Puis, si un jeune veut s'installer dans la culture, comment il peut faire à l'heure actuelle s'il n'est pas issu du monde agricole ?
C'est très compliqué.
C'est pour ça qu'en fait, on voit beaucoup d'installations en maraîchage, parce qu'en fait, le maraîchage, ça ne demande pas beaucoup de surface et donc pas beaucoup d'investissement foncier. Mais le foncier est le problème majeur en agriculture, oui, c'est clair. Si sur des fermes d'élevage ou de céréales, si on n'est pas fils d'agriculteur, c'est très, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on voit plein d'installations sur du maraîchage, sur un hectare, sur deux hectares. Mais ceci dit, ça pose des questions. C'est-à-dire que, en général, sur le maraîchage, il y a le chef l'exploitant agricole, le maraîcher, qui embauche en général 3-4 personnes. Donc ils sont 4 à bosser sur un hectare ou deux. Et à côté, il y a le céréalier qui est sur 300 hectares et tout seul dessus. Et en plus, il trouve des techniques pour semer en direct et puis mettre du glyphosate. Et il veut pas qu'on lui interdise de dépendre son glyphosate parce que c'est super pratique. Il a 400 hectares, il est tout seul. Il fait semi, glyphosate et terminé, on n'en parle plus. Bon, il y a vraiment un modèle. Voilà, c'est des choix politiques, c'est des choix de modèle.
Mais même pour transmettre une ferme. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un siècle, en fait, là. L'Eure, c'était un département d'élevage. Aujourd'hui, c'est un département céréalier. Et la tendance, c'est des grosses, grosses fermes qui ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une ferme qui arrête, eh ben, il y a d'autres fermes qui rachètent pour grandir. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut faire de sa ferme? Est-ce qu'on veut la transmettre à un jeune ou est-ce qu'on veut la vendre pour... Nous, on a choisi... Enfin, mon fils voulait reprendre... Donc, entre guillemets, je dirais que c'est facile de retransmettre à son enfant. C'est d'ailleurs pas si facile que ça. Mais on s'est quand même dit avec Didier, si jamais Hugo ne reprend pas, on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour installer un jeune. C'est-à-dire que notre ferme ne partira pas au voisin d'à côté qui a déjà 400 hectares ou 500 hectares. Parce que c'est facile de dire qu'on ne peut pas installer les jeunes, mais il faut peut-être leur laisser de la place aussi.
C'est ce qui explique aussi, je suppose, les petites unités et ces grosses fermes de 300 ou plus et des céréaliers de la Beauce, que moi je connaissais bien, la différence de revenus aussi agricoles, parce que je pense que c'est très disparate, parce que certaines personnes disent que le revenu... Bon, les agriculteurs, ils ont de l'argent, il ne faut pas exagérer. Donc, c'est ce qui se dit. Mais justement, les revenus doivent être très disparates, en fin de compte.
Oui, et ils ne sont pas forcément proportionnels à la surface. Et ça, c'est quand même assez intéressant.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on voit dans le milieu des fermes assez importantes qui sont limite de mettre la clé sous la porte. Et puis des fermes, des petites fermes où il y a de la diversification, où il y a de la vente en direct, où il y a qui finalement. Alors, je pense que sur des petites fermes comme les nôtres, c'est pas des fermes où on fait fortune. Mais alors, on va revenir au début de nos échanges. Moi, j'ai un métier que j'adore. Là, j'ai passé toute ma matinée là dehors à planter mes arbres. Je suis en train de planter des haies. Il y a un vent à décorner les bœufs. Putain, mais j'ai passé une matinée, j'étais heureux comme tout. J'aime bien la solitude. Il y avait le vent qui me soufflait dans les oreilles. J'avais les petits lièvres qui bougeaient, les machins. Enfin bon, on a une qualité de vie qui est quand même... Enfin, il y a que ce métier-là qui propose cette qualité de vie-là. Alors finalement, la fortune, bon, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, je crois qu'il faut relativiser tout ça, quoi.
Quel besoin on a ? C'est la question qu'on a à se poser, en fait.
Bah moi, j'aime bien avoir de l'argent quand même. Hein, mais
comme tout le monde.
Mais je veux dire, la fortune, on s'en fout un peu. Quoi. Il y a aussi tout ce qu'il y a tout autour. Quoi. Ouais.
Et puis, Corinne, vous avez eu l'idée de faire une ferme pédagogique. Alors justement, quel est votre rôle auprès des enfants quand ils viennent à la ferme?
Pour moi, le rôle que nous, on peut avoir, c'est justement de partager ce qu'on fait, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer comment ça se passe au niveau des productions et sans forcément dire, bon là, maintenant, on est bio, on peut parler des différentes agricultures plutôt que de dire, nous, on fait que du bio. Enfin, plutôt que parler que d'une seule, quoi. Essayer d'amener, en fait, les enfants, plus ils grandissent, à se poser des bonnes questions et à se poser des questions, surtout. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Et qu'est-ce qu'on veut quand on veut des bons produits? Parce que qu'est-ce qu'on... Voilà. Et moi, c'est partager ça, c'est leur faire redécouvrir ce qu'est une ferme, parce que la plupart n'ont plus aucune notion de ce que ça peut être. Ils ont les livres sur les fermes pour les enfants racontent des fermes qui n'existent pas. Donc nous, on voulait aussi transmettre une image de fermes qui existent. Et puis, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les gens, les adultes. Et cet échange est vraiment parler de ce qu'on fait pour que les gens ils arrivent à comprendre ce qui s'y passe. Parce que l'agriculture, c'est quand même très complexe aujourd'hui. Quand on dit c'est un produit fermier, c'est super. Ben, produit fermier, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, il est fermier parce que c'est dans une ferme. Mais quelle ferme ? L'intérêt, c'est de savoir quelle ferme et qu'est-ce qu'on y produit et comment. Et après, on se fait son choix.
Après, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer aussi. Enfin, moi, j'accueille très, très régulièrement des élèves de lycée agricole, par exemple, pour leur montrer aussi d'autres modèles, parce que c'est souvent des fils d'agriculteurs qui sont très formatés dans un système traditionnel. Et du coup, ça leur suscite de la réflexion. Alors après, c'est repris avec le prof, etc. Mais voilà, ça, pour eux, c'est important. Et je pense que nous, on a un rôle à jouer par rapport à ces élèves-là. Après, moi, j'accueille aussi pas mal d'autres agriculteurs qui veulent voir le système de culture dans lequel je suis, parce que ça les interpelle. Et puis, par exemple, les haies là, que j'ai plantées cet hiver, j'ai organisé des chantiers participatifs. Donc, j'ai fait venir des gens d'horizons différents. Alors, ça allait du chasseur à l'écolo, en passant par le mec de la Ligue de la protection des oiseaux. Enfin bon, mais du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est des gens qui se détestent. Mais là, ils ont passé la journée ensemble à planter des arbres. Bon, des fois, quand ils s'engueulaient, je voyais bien les arbres, mais c'était pas très bien planté. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas vrai parce qu'ils se sont pas engueulés, d'ailleurs. Ils ont vachement échangé. Mais là aussi, on a un rôle à jouer, en fait, parce que, du coup, les gens, ils étaient les pieds dans la terre. Ils se sont aperçus que, c'est un métier sympa, mais des fois, c'est quand même pas simple. Parce que moi, passer la matinée, la gueule au vent, ça m'amuse. Ça me pose pas trop de problèmes, mais ça fait 40 ans que je fais ça, donc je suis endurci. Bon, les copines de mes enfants, là, quand ils venaient, elles trouvaient qu'il faisait pas très chaud quand même. Bon, mais tout ça, c'est important. Enfin, c'est du lien social. Et je pense qu'il faut, il faut qu'on réouvre nos fermes pour faire du lien social.
Oui, c'est une façon de transmettre vos valeurs au niveau de l'agriculture.
Voilà. Puis redécouvrir une autre façon de vivre plutôt que de courir tout le temps comme des lapins, comme on fait. Quoi. Se poser un peu, discuter. C'est la vie, ça.
Par rapport au problème de transmission, il existe quand même aussi des associations genre Terre de Liens qui se proposent d'acheter des terres pour les donner et les mettre à disposition de jeunes qui veulent s'installer alors en bio mais voilà et du coup ça permet à ces jeunes là de se lancer et alors que si c'est des jeunes qui sont pas issus du milieu agricole et du coup ils auraient jamais pu et là ça leur met le pied à l'étrier donc c'est bon voilà il existe plein de petites choses comme ça quoi. Mais c'est sûr que le problème du foncier il faudrait le revoir hein. Mais là
aujourd'hui le prix des terres il a dépassé en fait si on investit dans les terres c'est pas rentable du tout c'est-à-dire qu'en fait on est en déficit On est en déficit par hectare, quoi. Donc il faut déjà avoir beaucoup de moyens pour pouvoir acheter des terres en sachant qu'on va perdre de l'argent, quoi.
Mais est-ce que la grande question, en fait, c'est est-ce que le foncier agricole doit appartenir à des privés ?
Ah, c'est une autre question, oui, exactement.
Mais là, c'est un vrai débat.
Aujourd'hui, se dessine quand même par rapport à ce problème-là le fait qu'il y a des financiers qui achètent aussi des exploitations. Et là, ça devient grave parce qu'un financier, il n'a pas le même rapport à la terre que ce que Jean-Bernard nous raconte. Pas cet amour de la terre et ce besoin de faire malgré ce métier qui n'est pas toujours facile, mais qui offre quand même effectivement une qualité de vie assez chouette. Quoi.
Bien sûr. Eh bien, à présent, je vous propose un petit clin d'œil pour clore cette interview. Laissez les grenouilles croasser. Le maire du village girondin de Gajac, suite à des plaintes des urbains, veut inscrire le bruit de la campagne au patrimoine national. Le bruit des cloches, des églises, le meuglement des vaches, le chant du coq, les bruits des tracteurs. Affaire à suivre. Merci à nos invités, Corinne Duédal et Jean-Bernard Lorisier, pour leur intéressante et agréable participation. Merci beaucoup à vous deux.
Bulle et reportage, principe actif.